Bonjour et bienvenue, merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter en direct jusqu'à 13h avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, retour sur les temps forts de la semaine avec le duel et puis le débat, comment l'éviter ce samedi 1er mai. Le travail libère-t-il? Après une journée internationale des travailleurs confinés l'année dernière, les syndicats, vous l'entendiez dans le flash d'Anaïs, les syndicats réinvestissent la rue aujourd'hui. La CGT, FO, la FSU appellent à battre le pavé, mais des syndicats mis à l'épreuve non seulement par la pandémie, mais par une véritable révolution dans le monde du travail. Télétravail, explosion de ce qu'on appelle maintenant les travailleurs des applis, explosion en sens négatif du modèle du salariat et une digitalisation de l'économie et de nos sociétés dont on se demande si elle créera des emplois plus qu'elle n'en détruira. On va en débattre avec l'une des meilleures spécialistes de ces questions. Elle est engagée à gauche, elle a beaucoup réfléchi à ce capitalisme de plateforme qui menace notre modèle social. Rendez-vous avec la sociologue Dominique Méda dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord le duel.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. C'est la journée internationale des travailleurs, mais Natacha, vous nous disiez que c'était aussi la journée de...
Oui, c'est un peu anecdotique. La journée mondiale du jardinage nu, c'est autre chose.
C'était juste pour le sourire et oui. C'était pour rassurer nos auditeurs, nous n'en parlerons pas.
Tant mieux.
Tant mieux. On va tout de suite plonger dans le vif du sujet. Un compte à rebours, un calendrier, une date, celle du 19 mai. Et peut-être la perspective de liberté retrouvée.
Si aujourd'hui le virus baisse de 20% environ par semaine dans notre pays, c'est bien parce que nous faisons ces efforts. Mais en parallèle de ces efforts, eh bien nous allons pouvoir retrouver plus de liberté, plus de plaisir de vivre, retrouver une forme d'art de vivre à la française, avec la réouverture d'activités qui ont été fermées. Nous l'avons connu l'année dernière, souvenez-vous, au mois de mai, l'été n'est pas pareil que l'hiver en termes de circulation du virus, et surtout nous avons une arme nouvelle, la vaccination.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, hier sur France Info, il revenait sur le plan de déconfinement annoncé par le président de la République. 4 étapes qu'on a maintenant tous en tête, dont celle du 19 mai, une date où l'on pourra retourner au cinéma, au musée, au théâtre et chacun ses priorités, aussi en terrasse. Est-ce que vous avez ressenti du soulagement, une forme de libération? Je vous pose la question régulièrement, mais cette fois, vraiment, Natacha, qu'avez-vous ressenti?
À la fois, oui, évidemment, je pense comme n'importe quel Français, une forme de soulagement, l'espoir de pouvoir enfin commencer à vivre à peu près normalement, et aussi une forme d'étonnement face à certains choix. Par exemple, le choix qui consiste à ne pas étendre l'âge de vaccination, mis à part pour les personnes en situation d'obésité. À part cela, on va continuer un calendrier qui me semble peut-être aujourd'hui ralentir la vaccination, dans la mesure où on a parmi les gens qui sont aujourd'hui éligibles 4 millions de personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Donc je comprends qu'on veuille à tout prix vacciner ces gens-là, mais on ne sait absolument pas si... ils ne veulent pas se faire vacciner ou si ils sont victimes, et c'est le cas pour certains, de cette fameuse fracture numérique qui fait qu'ils ont énormément de mal à s'inscrire, à trouver des rendez-vous.
Gilles nous
Mais
dira peut-être.
Pour autant, il me semble qu'il serait temps, si on veut que ce déconfinement se passe bien, de vacciner davantage de gens dont il sera utile qu'ils soient vaccinés. Je pense par exemple tout simplement aux serveurs de cafés et de restaurants. Ces gens-là vont être en contact avec du public. C'est en général des gens jeunes, donc qui ne sont pas encore vaccinés. Si on veut que l'été se passe bien, je pense que ce genre de personnes doit être vaccinées. Dernier point, si on doit multiplier partout en Europe des passeports vaccinaux, je pense que là aussi, ce serait pas mal d'accélérer un petit peu. Or, voilà, ça fait partie de mes divers étonnements, il y en a d'autres, face aux choix qui ont été faits.
Gilles Finkelstein.
Le calendrier de déconfinement qui a été annoncé a une énorme vertu, c'est qu'il ouvre une perspective, il donne de la visibilité à la fois sur le plan économique et je pense qu'on l'a tous ressenti, y compris sur le plan psychologique, ça nous permet de nous
on
projeter.
On voit davantage de sourires, même si on reste masqué.
À ces différentes dates, avec, comme toujours aussi, une interrogation sur l'effectivité de ce calendrier, dans la mesure où, de la même manière, quand on signe un contrat d'assurance, il faut regarder les astérix. C'est un peu la même chose. Là, il faut regarder quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que ce calendrier se déploie comme il doit le faire. Mais au-delà, je trouve que ça soulève, il y a à la fois une question d'ordre sanitaire, une incertitude qui tient moins, pour moi, à la vaccination, en tout cas à notre capacité logistique de vacciner, parce que normalement, on devrait quand même y arriver, même s'il faut évidemment y arriver le plus vite possible, qu'au rythme de pénétration des variants, et surtout, c'est une question que je trouve presque vertigineuse, c'est quel est l'effet psychologique de l'annonce de ce calendrier par rapport, est-ce que ça va modifier nos comportements et est-ce que ce faisant, ça va rendre plus difficile son accomplissement
en d'autres termes ? Autrement dit, est-ce qu'on ne va pas anticiper le déconfinement et tout de suite commencer à vivre la liberté retrouvée ?
Eh ben, je crois que c'est une des questions, c'est évidemment un des éléments qu'il va falloir regarder. Et de la même manière que cette question, non pas du pass vaccinal, mais du pass sanitaire, pose des questions presque d'ordre.
Rappelle-nous la distinction.
Un pass vaccinal, c'est vous ne pouvez faire un certain nombre de choses que si vous êtes vacciné. Un pass sanitaire, c'est si vous êtes vacciné, si vous disposez d'un test PCR de moins de 48 heures ou de 72 heures, voir si vous avez été contaminé, que vous avez un certain nombre d'anticorps. Donc ce pass sanitaire pose des questions d'égalité. La France a été un des pays les plus égalitaires, notamment dans l'utilisation des tests et dans la gratuité des tests. Mais là, quand il va commencer à se mettre en place, il y a un risque en tout cas d'inégalité entre ceux qui auront pu être vaccinés et les autres, même si ce n'est pas seulement un pass vaccinal. Et dans la période après, il y aura en tout cas quelque chose à regarder entre ceux qui auront été vaccinés et ceux qui ne voudront pas se faire vacciner. Donc moi, je comprends tout à fait, même je pense que c'est légitime qu'il y ait ce passe, mais il faudra regarder pour quelle activité, sous quel contrôle, qu'est-ce qui se passe pour les données, etc. Et
donc, avant de donner la parole à Natacha, est-ce que vous avez une réponse à la question qu'elle posait, à savoir pourquoi autant de personnes éligibles à la vaccination ne se font pas vacciner, ou ne veulent pas se faire vacciner, ou ne peuvent pas se faire vacciner ?
Alors, ne peuvent pas, ça c'est une première question, ne veulent pas, ça c'est ce que l'on voit depuis des mois et des mois, qu'il y a un noyau dur aux alentours de 20% de Français qui disent « je ne veux pas et je ne veux pas du tout me faire vacciner ». Et ce noyau dur, pour l'instant, il bouge relativement peu.
Natacha.
J'ajoute un élément à ce que vient de dire Gilles sur le calendrier, sur les. Il évoquait la question de la pénétration des variants. Et je pense que là aussi, c'est un élément absolument essentiel. Je le rejoins sur l'interrogation sur l'espèce de risque de relâchement des mesures. Il suffit de se promener dans Paris pour voir la rapidité avec laquelle on sent cette envie de, disons, d'abandonner toute forme de mesures barrières. Mais je crois surtout que la question est de savoir si, cette fois-ci, on est réellement en mesure d'être efficace pour limiter de nouveaux variants, de nouvelles contaminations. Nous avons désormais 3 patients atteints par le variant indien sur le territoire. Il serait peut-être intéressant d'avoir une communication, une véritable communication sur la manière dont ces patients ont été contaminés. Est-ce que lorsqu'ils sont revenus d'Inde, puisque si je ne me trompe, en tout cas c'est ce qui avait été annoncé au départ, les 3 personnes revenaient d'Inde. Est-ce que il a été vérifié que ces personnes s'isolaient ? Je pense, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que dans ce domaine-là, faire confiance à la bonne volonté de chacun pour s'isoler chez soi est une absurdité. C'est-à-dire que nous risquons, une fois de plus, d'enfermer tout le monde pour éviter d'enfermer les personnes à risque. Ça me semble, là aussi, une autre absurdité. Et je pense en tout cas que c'est un enjeu qu'il va falloir suivre, parce que si on nous explique qu'il y a à chaque fois des variants absolument apocalyptiques, il serait tout de même intéressant, cette fois-ci, d'enfin prendre des mesures efficaces et rapides, sachant qu'au moment où on voit apparaître un variant, il est déjà potentiellement très tard.
Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
La vraie question, si vous voulez, que devraient se poser les dirigeants En Marche et le président de la République, c'est qu'est-ce qui peut pousser des militaires à prendre ainsi la parole alors que leur tradition, c'est évidemment un devoir de réserve.
La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, elle soutenait la tribune signée par plusieurs gradés de l'armée, dont une vingtaine d'anciens généraux. Tribune publiée dans le magazine Valeurs Actuelles et un texte qui demande notamment au président de la République, je cite, de défendre les valeurs de la civilisation. Contre la horde des banlieues, je ferme les guillemets, démarche fustigée par le chef d'état-major des armées qui a lancé des sanctions contre, qui a annoncé des sanctions contre plusieurs de ses militaires qui sont toujours en activité. Analyse de cette bataille dans l'armée. D'ailleurs, est-ce qu'on peut présenter ça comme ça, Gilles?
Non.
Non.
Je ne crois pas. Je ne crois même pas du tout. D'une certaine manière, on pourrait être tenté de tourner ce texte en ridicule. C'est un peu le discours de votre arrière-grand-oncle au repas dominical qui a bu un coup de trop et qui passe trop de temps devant CNews. Donc, on pourrait faire ça. Mais je crois qu'il faut quand même le prendre au sérieux et dire que c'est inacceptable. Et ce qui est inacceptable, en fait, c'est la conjonction de trois éléments. Le contenu du texte, vous l'avez dit, avec une ambiguïté sur l'appel à l'intervention des camarades d'active. Donc, cette ambiguïté sur le contenu. De la date, qui évidemment n'est pas un hasard, qui est que ce texte a été publié le jour du putsch des généraux d'Alger, et des auteurs, c'est-à-dire des généraux, des militaires à la retraite, certes, mais qui sont dans ce que l'on appelle la deuxième section, c'est-à-dire qui peuvent être appelés. Donc, c'est cette conjonction-là qui rend ce texte inacceptable. Donc, s'il est inacceptable, il ne doit pas être accepté. Le chef d'état-major des armées a dit ce qu'il fallait dire, il faut maintenant faire ce qui doit être fait.
Oui, mais plusieurs politiques l'ont soutenu. On vient d'entendre Marine Le Pen. Natacha, est-ce que ça vous a surpris, justement, que plusieurs responsables politiques partagent leur affliction et leur constat, pour reprendre les mots de Marine Le Pen?
Alors, premier point, je partage la vision de Gilles sur ce texte. Je pense que même dans son expression même, il est d'un simplisme, puis avec des termes inacceptables. En effet, horde des banlieues, j'aimerais savoir ce que ça veut dire. On comprend bien que ça désigne les voyous qui veulent tuer du flic, et on a vu cela se jouer récemment. Mais l'exprimer de cette façon-là est en soi déjà une faute, et c'est une parmi tant d'autres dans ce texte. Que Marine Le Pen éprouve le besoin de soutenir ce texte, là aussi, est non seulement une faute politique, mais une stupidité, parce qu'elle n'en a pas besoin. Et c'est là où il me semble qu'il faut réfléchir à ce que signifie ce texte. Un sondage a montré que 58% des Français sont d'accord avec le contenu de ce texte. Alors, il me semble qu'il faut faire attention à ce genre, là aussi, de sondage. Et est-ce que ça mesure réellement ? Est-ce que les Français qui se disent d'accord avec le fond, avec la forme, sachant que la forme, c'est toujours du fond qui remonte à la surface, mais qu'en tout cas, ils peuvent être d'accord avec une partie, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des choses inacceptables et qu'il faudrait que les politiques s'en saisissent et cessent l'impuissance, ou est-ce qu'ils sont d'accord avec le côté, justement, avec les termes outranciers et avec la dimension... Peut-être pas putschiste, parce qu'il faut pas exagérer. On annonce rarement un putsch dans les journaux, mais avec la dimension, en tout cas, insurrectionnelle. C'est toute la question. Dans ce sondage, 49%, et c'est là où je suis tombée de ma chaise, disent qu'ils seraient d'accord pour une action de l'armée, même sans qu'elle y soit invitée par les politiques. Et là, on se dit qu'il y a une perte des repères républicains chez certains citoyens qui devraient nous alerter. Et il faut absolument que les politiques se saisissent de cela et jouent leur rôle, c'est-à-dire un rôle à la fois de rappel aux principes fondamentaux de la République, mais aussi qu'ils prennent en compte en fait, la souffrance et l'inquiétude qu'il y a chez beaucoup de citoyens dans les réponses, enfin dans le fait de répondre de cette manière-là.
Gilles Finkelstein.
Oui. Sur le texte lui-même, si on partage ce constat par hygiène républicaine, moi je le considère comme nul et non avenu. Et donc je trouve qu'il ne doit pas ouvrir une réflexion, il doit se terminer par des sanctions et on ne va pas passer du temps sur le texte lui-même. Enfin, moi, en tout cas. Sur les réactions, il y a eu à la fois des réactions par défaut et puis des réactions par excès. Le Rassemblement national, par la voix de Marine Le Pen, a d'une certaine manière, même en réalité soutenu ce texte, on peut dire que on retrouve là l'ADN, le vieil ADN OAS du Rassemblement National. On peut expliquer ça par le fait que l'électorat du Rassemblement National est totalement en phase avec ce contenu et qu'il y a même, on avait vu dans une enquête qu'avait fait Jérôme Fourquet pour la Fondation Jean Jaurès il y a 2 ans, en regardant le vote des bureaux dans lesquels il y avait davantage de casernes. On voyait qu'il y avait un survote pour le Rassemblement National. Donc on peut comprendre tout ça. Il reste que je crois que pour un parti qui prône l'ordre, pour un parti qui tente de se dédiaboliser, il y a là un gros faux pas. Et puis, je termine par là, il ne faut pas réagir non plus par excès. Je crois que la crainte d'un coup d'État militaire après ce texte qui a été agité, je crois, est totalement excessive. En réalité, c'est c'est une tribune de généraux qui a été lancée par un général qui ne l'a jamais été et par des généraux qui ne le sont plus, qui sont très peu nombreux, y compris par rapport aux généraux en réserve. Donc il ne faut pas exagérer ça. En revanche, ce dont il faut s'alarmer, c'est ce climat, le climat civil, la manière dont on joue avec cette idée trouble de la guerre civile. Et donc ça, je pense vraiment qu'il faut s'alarmer de ça.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
I think you should be able to become a billionaire and a millionaire, but pay.
Je pense que tout le monde doit pouvoir être millionnaire ou milliardaire, mais vous devez payer votre juste part d'impôt. Des études récentes montrent que 55 des plus grandes entreprises du pays n'ont pas versé le moindre impôt fédéral l'année dernière. Je vais réformer l'impôt sur les sociétés, je ne cherche pas à punir qui que ce soit, mais je ne taxerai pas davantage les classes moyennes. Elles souffrent bien assez comme ça.
Le président américain Joe Biden qui prononçait son premier discours devant le Congrès, il poursuivait Joe Biden sous les applaudissements notamment du sénateur Bernie Sanders. Le ruissellement des richesses n'a jamais marché, il est temps de favoriser la croissance économique de bas en haut. Le ruissellement des richesses n'a jamais marché, il est temps de favoriser la croissance économique de bas en haut, je répète ces mots, puisqu'il complète une profonde réforme qu'engage le président américain, une rupture peut-être avec les classiques libéraux de la politique américaine des dernières décennies, et donc une réforme fiscale qui compléterait le plan de relance massif qu'il présentait il y a quelques semaines pour relancer l'économie américaine. Sleepy Joe était particulièrement réveillé et beaucoup plus à gauche que ce qu'on imaginait, Natacha.
Oui, de fait, c'est assez intéressant de voir cette affirmation et de voir comment la politique qu'est en train de mettre en place Joe Biden, tient compte de la plateforme qui avait été mise en place avec ses adversaires, la Convention démocrate. Je pense que j'entends les nuances, les remarques de certains qui disent « mais ça nous fait plaisir, vu de France ». De nous dire Joe Biden est tellement plus à gauche que nous ne le sommes en France, alors que en fait il annonce par exemple la gratuité de l'école primaire. De l'école maternelle, pardon, ça existe déjà en France. La gratuité de certaines années d'université, ça existe déjà en France. Que le taux d'imposition étant beaucoup plus bas aux États-Unis, il peut l'augmenter. J'entends je veux bien comprendre en effet ces nuances nécessaires. Il faut raison garder. Pour autant, ce qui est extrêmement intéressant dans les prises de position, en effet, inattendues et très poussées de Joe Biden, c'est le fait que ça nous raconte la possibilité de mener une véritable politique de gauche quand on ne craint pas de voir des entreprises se délocaliser, quand on n'est pas sous la menace d'une fragilisation de son économie. Pourquoi Joe Biden peut-il se permettre tout cela? Parce que de toute façon, les GAFAM par exemple ne vont pas partir ailleurs. L'enjeu c'est de leur faire payer des impôts là où ils sont, il n'y a aucune menace. De même, la possibilité quand on maîtrise sa monnaie tel que c'est le cas aux États-Unis, on ne prend pas un risque systémique en mettant en place une véritable taxation des plus riches et des entreprises. C'est extrêmement important à retenir quand on veut juger la politique de Joe Biden.
Gilles Finkelstein.
Il y a, à l'occasion de ces 100 jours de l'accession au pouvoir de Joe Biden, une sorte de Biden-mania. La popularité personnelle de Biden m'étonne un peu. Son orientation politique, pas tellement. La popularité, Joe Biden est quand même un président qui est un président qui arrive au pouvoir usé par de longues décennies au Sénat, qui est un président gaffeur, qui est un président âgé. Et il y a une popularité. Alors, il ne faut pas l'exagérer non plus. J'ai regardé les chiffres. On a en gros 54% d'Américains qui ont une bonne opinion de Biden contre 41%. C'est pas des chiffres qui sont considérables. Il n'y a pas d'ailleurs d'évolution entre le début du quinquennat, du mandat des 4 ans et les 100 jours. Bon, en revanche, il est à un niveau de popularité que à aucun moment durant tout son mandat, Donald Trump n'a atteint. Donc ça, oui, il y a autour de cette mode-là un sujet d'étonnement. Sur l'orientation politique, pas tellement, et c'était un sujet de discussion récurrent avec Natacha. Quand on regarde ce qu'a été le travail du Parti démocrate depuis la défaite d'Hillary Clinton, il y a eu un vrai travail de fond, il y a eu un vrai repositionnement de ce parti. Peut-être que on n'en a pas eu la perception totalement parce que Warren et parce que Elizabeth Warren et Bernie Sanders ont été battus à l'occasion de la primaire, mais le centre de gravité de ce parti s'est déplacé. Le Joe Biden d'aujourd'hui n'est pas le Joe Biden d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. Il n'est sans doute même pas exactement au même point que l'était Barack Obama ou que l'était Bill Clinton auparavant. Le Parti démocrate dans son ensemble a bougé vers la gauche et je crois que Joe Biden était positionné au bon endroit pour l'emporter. Je termine juste d'un mot.
Oui.
Ces 100 jours montrent d'abord que le style populiste est dépassable. Qu'on n'est pas obligé de gouverner comme l'a fait Donald Trump pendant 4 ans. Je ne détaille pas ça, mais je crois que c'est un élément qui est très important, y compris pour nous. Et le deuxième, c'est que les politiques néolibérales sont dépassées. On voit que on revient d'une certaine manière aux critiques qui étaient faites traditionnellement à la gauche. La gauche, c'est le tax and spend. C'est taxer et dépenser. Eh bien, d'une certaine manière, c'est ce que fait Joe Biden aux États-Unis. Alors, certes, la France n'est pas exactement dans la même situation, mais il y a là matière, je crois, à réfléchir pour nous, pour l'avenir. Et puis ça fait une excellente transition.
Bravo,
pour le
oui,
débat avec Dominique Méda.
Vous vous félicitez vous-même, oui. Gilles, et on n'est jamais mieux servi, c'est vrai, que par soi-même. Mais bravo malgré tout, puisqu'à suivre dans le grand face-à-face, il est bientôt midi et demi, le débat avec la sociologue Dominique Méda.